BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% uploadé, on vous accompagne jusqu'à 18h en direct, on est parti, 2h30 d'autonomie totale au rythme des publications. Quelles sont nombreuses aujourd'hui les publications, le marché croule sous les annonces d'entreprises. 11 groupes du CAC aujourd'hui publient, comment cela se traduit-il ? Par une baisse. Le CAC 40 est en repli, net repli d'1,4% aujourd'hui, avec en plus une remontée des taux obligataires qu'on va essayer de devoir comprendre parce que la croissance américaine qui a été publiée ralentit nettement. On aurait pu se dire ah, ça va permettre aux taux de se détendre, mais c'est pas le cas. Les taux continuent de se tendre, on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis du côté des valeurs, ne pas rater Sanofi en tête du CAC 40. Hermès en revanche qui recule malgré une belle publication. Et puis bien sûr aux États-Unis beaucoup de publications aussi. D'ailleurs Wall Street est en train d'ouvrir, figurez-vous. Il est 9h30 à New York, 9h30. Et pour parler justement de ce début de séance américain, USA Today, aujourd'hui Thierry Guy, le président de Raymond James France, nous accompagne. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. Et merci d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui. Étienne Brac aussi est avec nous depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne. Je vous sais heureux Étienne. Vous aimez.
Bonjour à tous.
Vous aimez ces méga journées d'avalanche de publications d'entreprises. Vous aimez ça. Et on va pouvoir se faire plaisir jusqu'à 18h en décortiquant ce que les différentes entreprises annoncent et la façon dont le marché surtout réagit. D'abord Étienne, l'ouverture sur le marché américain. Comment ça se passe?
C'est du rouge. Après avoir perdu déjà 2% vendredi, le Nasdaq signe à nouveau une baisse de 2% dans les premières minutes de cotation, moins 2,3% même pour l'indice technologique à 15 358 points, avec, on en reparlera dans un instant, mais Meta qui pèse de tout son poids quand même, moins 15% là à l'instant pour la maison mère de Facebook après la publication de ses résultats. Vous avez un Dow Jones qui perd 1,3%, le S&P qui cède 1,4% avec l'ensemble des GAFAM, des 7 magnifiques qui sont en large retrait. Regardez Microsoft qui perd 4,5% dans les premières minutes de cotation avant la publication de ses résultats ce soir. Nvidia, moins 1,3%. Par miracle, Apple est dans le vert, mais c'est vraiment à la marge. Hein. Plus 0,4% pour ce titre Apple, quand Alphabet, de son côté, la maison mère de Google, perd 4,7%, avec donc Meta qui plonge l'ensemble de ses rivaux aujourd'hui. L'obligataire qui continue de grimper. Hein. Souvenez-vous, hier, il était sur des plus hauts de novembre. Hein. Le 10 ans américain, il continue de progresser. 4,73 pour le 10 ans américain, qui est toujours sur des plus haut de novembre, avec hier une adjudication de 70 milliards sur le 5 ans. C'est record. Hein. Les États-Unis n'avaient jamais mis 70 milliards sur le marché à une échéance 5 ans. Ça ne s'est pas très bien passé. Hein. Il y a eu une demande qui était inférieure aux attentes. Donc ça pourrait faire de continuer à remonter les rendements sur les taux courts et sur les taux longs. Idem en France, en Europe. Hein, 3,13 pour le 10 ans français, un 10 ans italien qui retrouve la barre des 4%. À noter l'euro-dollar qui perd à nouveau la barre des 1,07 à 1,0688. Et puis sur le front des matières premières, ça se stabilise avec un baril de pétrole qui est à 87$. L'once d'or de son côté recule légèrement après les records touchés ces derniers jours à 2330$. Et donc Wall Street qui recule franchement sous le poids de Meta et de l'ensemble des valeurs technologiques, moins 2,2% pour l'indice Nasdaq avant encore de nombreuses publications ce soir, Intel, Microsoft ou encore Alphabet dès 22h.
Thierry Guy donc est avec nous. Thierry, la croissance américaine, la croissance du premier trimestre, le chiffre a été publié tout à l'heure. Eh bien ce chiffre ressort largement inférieur aux attentes. On a un vrai ralentissement cette fois de la croissance américaine à 1,6% au premier trimestre. On l'attendait à 2,2%, elle ressort à 1,6%. Là, on a peut-être un premier coup de froid, coup de frein sur cette dynamique américaine.
Comme vous venez de le souligner, c'est un peut-être. Pourquoi ? Parce qu'au sein du chiffre en tant que tel, les 1,6, il faut nuancer deux choses. Il y a à la fois du côté du consommateur, dont on sait qu'aux États-Unis, c'est l'essentiel, c'est lui qui explique le gros de la croissance. La consommation des ménages est toujours assez forte, plus 2,5. Les activités, les business spending sont également en forte hausse, plus 4%. À l'inverse, dans cet indice du PIB, vous avez la faiblesse à la fois sur la balance commerciale, hein, qui a retiré pratiquement 0,9% du chiffre attendu, et également aussi sur les variations de stock. Donc c'est pour ça que chacun pourra y voir ce qu'il veut dans ce chiffre de 1,6. N'oubliez pas qu'il sera amené à être révisé par deux fois dans les semaines à venir.
Effectivement, et ça n'empêche pas, ce chiffre de la croissance inférieur aux attentes n'empêche pas, Étienne en parlait, le 10 ans américain continue à progresser avec une demande hier qui est un petit peu déçue. Les publications, alors vous nous avez donné ce chiffre Étienne, c'est la valeur à ne pas rater aujourd'hui et la variation que tout le monde regarde, moins 15%, le titre Meta à l'ouverture de Wall Street cet après-midi.
Oui, Meta hein, qui recule très largement, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui partent en fumée avec la baisse du jour, avec notamment Meta qui a publié des résultats meilleurs que prévu. Mais sur l'intelligence artificielle, Thierry Guy, ça déçoit, alors que dernièrement, l'IA, c'était vraiment le mot magique sur les marchés.
Oui, je pense que la sanction prononcée sur Meta vient un peu d'une déception sur le fait que la société Zuckerberg, depuis plus d'un an, depuis son grand discours sur le métaverse il y a maintenant plus de 18 mois, avait un petit peu recentré le sujet pour se repolariser sur la croissance du groupe. Donc, le discours de Zuckerberg hier, c'est de dire, voilà, je vais continuer à investir sur l'IA et également aussi sur le métaverse. Ça va prendre du temps. Et n'oubliez pas que Meta est probablement sur les Magnificent 7, la société qui avait le plus monté l'année dernière. Lâcher 13% aujourd'hui n'est en soi pas tellement choquant. La question est de savoir si effectivement il y a une augmentation assez sensible de ses capex. On estime entre 30 et 35 milliards, on parle maintenant de 35 à 40 milliards. Et c'est un peu pour ça que le titre se fait sanctionner aujourd'hui.
Effectivement, parce qu'on a un coût des capex finalement un peu plus élevé que ce qui avait été annoncé initialement, mais les revenus de l'intelligence artificielle qui mettront du temps à arriver. C'est-à-dire que le groupe dépense de plus en plus pour gagner quelque part un peu moins. Enfin voilà, c'est ça le calcul de Wall Street aujourd'hui. Est-ce que, effectivement, les investisseurs se disent que Meta, là, risque de dérailler un peu, comme ils avaient peut-être été soupçonnés de dérailler sur le métavers? Alors l'IA est sans doute une thématique plus prometteuse à court terme, mais quand même, dans la façon d'aborder la thématique intelligence artificielle, de déployer toutes ces dépenses d'investissement pour de faibles revenus à court et moyen terme, est-ce que le marché effectivement se dit que là, Meta est en train peut-être dans sa stratégie vis-à-vis de l'IA de perdre les pédales, de vouloir investir trop pour trop peu de revenus à court et moyen terme?
Alors, il est possible que, enfin, c'est même quasi certain que ce soit la lecture immédiate. Après, il faudra donner du temps au temps pour savoir un petit peu de mesurer la stratégie de Zuckerberg. Mais pour l'instant, effectivement, il y a des attentes très fortes. Jouer l'intelligence artificielle aujourd'hui ou le voir par le prisme d'acteurs comme Meta ou qui encore une fois n'a pas d'activité cloud en plus à la différence de Google qui va publier ce soir, c'est pas forcément le meilleur moyen. Les vrais acteurs aujourd'hui depuis 18 mois qui ont surfé sur la vague IA, ce sont les boîtes de semi-conducteurs. C'est vraiment ce secteur-là qui a vraiment été l'acteur central. Mais aujourd'hui, tous les opérateurs cloud vont y aller, que ce soit Azure, que ce soit également Google et Meta y vient également.
Meta, qui risque en plus sur cette thématique IA et les revenus afférents à l'IA de souffrir de la comparaison avec Microsoft. Il se trouve que Microsoft arrive déjà à monétiser l'IA et c'est ce soir que Microsoft va effectivement publier ses résultats. En attendant, le titre Microsoft est lui aussi sous pression, moins 4%. Il ne faudra pas que Microsoft déçoive ce soir, Thierry.
Ah, c'est essentiel, vous avez tout à fait raison. Microsoft doit être capable de délivrer ce soir. Un des chiffres clés qu'on va observer va être la croissance qu'il y a dans l'activité cloud, AWS. Ils avaient tiré leur épingle du jeu au trimestre précédent, en Q4 de 2023, avec une croissance de 28%. On sait que la contribution de l'IA avait représenté à peu près 600 BP sur ces 28%. Est-ce que ce trimestre, ce soir, va monter une accélération ou un léger fléchissement? Nous, nos analystes aux États-Unis, on fait un preview, en fait, on fait une étude en amont pour prendre un peu le pouls de l'activité. Et en fait, on s'accorde à dire que quand bien même il y aurait un léger tassement, il ne faudrait pas, entre guillemets, sanctionner le titre pour cela. C'est somme toute assez normal. Et si c'était le cas, on serait bien évidemment acheteur sur la baisse.
Microsoft ce soir et Alphabet aussi, alors qui est un petit peu en retard sur Microsoft, en l'occurrence sur l'IA. Il va falloir qu'Alphabet, dans sa publication tout à l'heure après la clôture, prouve que ce retard n'est pas encore irrémédiable. Vraiment, on est au cœur des publications des GAFAM, ce sera passionnant à surveiller. En attendant, c'est Meta aujourd'hui qu'il faut regarder après sa publication d'hier, et c'est une sanction, on le disait à l'instant, moins 15% Meta, et on va continuer d'en parler tout au long de l'après-midi. On parlera aussi dans quelques minutes à 16h, bien sûr, des publications à Paris, et notamment Hermès. On n'a pas l'IA à Paris, mais on a la désirabilité, celle d'Hermès, incroyable publication. Pour autant, le titre qui était très haut repart un peu à la baisse. On en parlera avec Eric Blaine à partir de 16h. Et puis, le secteur du tourisme aussi à ne pas rater aux États-Unis. Etienne, Royal Caribbean, American Airlines ou encore Southwest, autant de valeurs qui ont publié également aujourd'hui.
Et qui confirme la dynamique. On en parlait hier avec Hilton. Vous avez un secteur, Thierry Guy, qui est très résistant, très robuste, le secteur du tourisme, avec notamment Royal Caribbean qui relève ses prévisions. Le titre perd 1%. À l'inverse, American Airlines perd 2%. Pour autant, la compagnie aérienne revoit à la hausse ses prévisions pour le deuxième trimestre.
Alors, pour le croisiériste Royal Caribbean Cruise, franchement, quand on regarde les résultats, il coche toutes les bonnes cases. hausse des prix, amélioration des marges, hausse de la fréquentation. Et vous voyez, dans un marché qui est assez faible en ouverture, le titre ne cède que 1%. Le titre a été une des plus fortes hausses pour mémoire en 2023. Il n'y a pratiquement que Nvidia qui avait fait mieux. Au niveau des compagnies aériennes, c'est un petit peu, il y a un peu deux poids, deux mesures. Quand vous regardez ce qu'on appelle dans notre jargon les legacy carriers, c'est-à-dire les compagnies aériennes à longue distance, que ce soit Delta ou UAL, ce sont des sociétés qui ont très bien délivré et qui, à l'instar de Delta Airlines, se payent pratiquement dans ses plus hauts. Quand on va chercher des sociétés low cost ou plus régionales comme Southwest ou Southwest Airlines ou Alaska, c'est plus nuancé. American Airlines bénéficie effectivement d'une demande qui reste toujours très forte. Southwest souffre en fait de son exposition sur l'absence de livraison d'avions de Boeing.
Thierry Guy, en direct avec nous, le président de Raymond James France. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à l'appel de BFM Business, BFM Bourse pour analyser l'ouverture à Wall Street. Et puis il y a une autre valeur à ne pas rater que vous avez repérée, Étienne, un baromètre d'ailleurs de l'état de l'économie, le titre Caterpillar. Que fait Caterpillar aujourd'hui après sa publication ?
Ben c'est très compliqué pour Caterpillar, moins 7%. Donc là aussi, ça pèse très lourdement sur l'indice Dow Jones parce que c'est une valeur qui compte beaucoup. Moins 7% avec un groupe qui, là, eh bien, s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. C'est intéressant cette publication parce que Caterpillar, c'est un groupe qui est présent partout, dans les travaux, dans l'agriculture, dans les mines. Bref, vous avez des tracteurs Caterpillar partout dans le monde. Et là, vous avez un groupe qui est très prudent avec un ralentissement des commandes, des investissements. Ça se normalise. Hein. Après, on se souvient une période très faste l'année dernière. Pour autant, vous avez un groupe qui s'attend un chiffre d'affaires cette année stable, hein, donc ça montre bien qu'il n'y a rien de catastrophique, mais c'est un petit signal faible, hein, qui montre que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une croissance aussi dynamique qu'aux États-Unis, qu'ailleurs, eh bien, c'est un peu plus compliqué, notamment dans le secteur du bâtiment, et le marché vend la nouvelle après ses résultats sous les attentes, sachant que c'est un titre qui était sur des records historiques il y a quelques jours et qui gagne malgré la baisse de 7%, toujours plus de 30% en l'espace de 12 mois.
Merci beaucoup Étienne Braque depuis la Tour Euronext en direct et qui va nous accompagner tout au long de l'après-midi jusqu'à 18h. Wall Street ouvre en repli aujourd'hui, avec toujours des tensions obligataires et une demande un peu moins présente sur le 5 ans américain. C'était hier. On a un 10 ans américain qui monte, on a des indices qui baissent, moins 1,2% le S&P et le Nasdaq surtout avec Meta. Le Nasdaq perd 2%. À Paris, pas de miracle, on perd 1,4%. On va parler en détail dans un instant des publications parisiennes. Sanofi est en tête du CAC. Dassault Systèmes en revanche est lanterne rouge. Mais à 15h43, c'est la bourse cash. Frédéric Rosier était avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez aujourd'hui, Frédéric, dire leurs quatre vérités au marché ? Vous êtes sûr ?
Certain.
Voici votre message et votre conseil aujourd'hui aux investisseurs. En avril, ne te découvre pas d'un fil de cuivre en l'occurrence.
Oui.
Ce propos, vous l'assumez Frédéric ?
Je l'assume totalement, je confirme.
Alors que le marché aujourd'hui, Frédéric Rosier, croule sous les publications, vous ne trouvez rien de mieux que de dire aux investisseurs en avril, ne te découvre pas d'un fil de cuivre en l'occurrence. Pourquoi était-il si important de le dire cet après-midi ?
Alors c'est très important, on revient sur la discussion qu'on a eue les semaines précédentes, question de la pénurie de cuivre, oui ou non, en absence d'investissement majeur, est-ce que nous allons manquer de cuivre dans la transition énergétique à venir, dans éventuellement une économie qui ne ralentit pas, donc cette demande va exploser dans les années à venir et l'offre a tendance à plutôt ralentir, en tout cas de faiblement monter. Et on le voit aujourd'hui, une OPA, en tout cas une annonce d'une intention d'OPA qui booste quand même aujourd'hui ce marché. Donc je le confirme, c'est un secteur à surveiller, voire à acheter.
Effectivement, énorme OPA peut-être à venir, effectivement, BHP Billiton sur Anglo-American, ce qui donnerait naissance à un nouveau leader mondial du cuivre, tout simplement.
10% de la production mondiale. Heureux téléspectateurs, auditeurs de BFM Business. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux au regard des retours que j'ai de vos auditeurs. Nous avions conseillé il y a 2 semaines le cuivre et notamment anglo-américain. Oui, on va avoir une vague de concentration parce que la complexité de la production du cuivre, la demande aujourd'hui omniprésente, notamment sur le véhicule électrique et le transport d'énergie, va exploser. Donc cette opération, si elle va jusqu'au bout, naissance du numéro 1 de production du cuivre, seulement 10% de la production mondiale, hein, donc il faut minimiser, et surtout derrière, une dynamique qui est très très porteuse dans les années à venir. Oui, on sera en pénurie de cuivre dans les 5 ans à venir.
Et donc si cette fusion-acquisition a lieu, se réalise, ce sera peut-être le déclencheur d'une vague, c'est ce que disent un certain nombre d'analyses, d'une vague dans ce segment des matières premières et pourquoi pas aussi du cuivre qui restera même si on aurait là la naissance d'un nouveau géant, qui restera un secteur très très morcelé. Le cuivre, on parle tout le temps de l'intelligence artificielle et du cloud. Il n'y aura pas plus d'IA ni de cloud sans plus de cuivre en l'occurrence, Frédéric.
Oui, le cuivre, vous le retrouvez dans les data centers, notamment dans les conducteurs. Donc oui, le cuivre alimente finalement tout ce qui est transition, développement AI, véhicules électriques, transport d'électricité, énergie solaire. Bref, vous le trouvez partout. Et comment vous voulez alimenter la croissance de demain si vous n'avez pas de production de cuivre? Donc oui, ça va continuer, ça va s'accélérer. Et on va avoir, à l'instar de ce qu'on a connu en 2007-2008, à mon avis, des records sur records sur cette matière première.
En avril, ne te découvre pas d'un fil de cuivre. Votre message aujourd'hui, on va quand même parler des publications dans un instant. D'ailleurs, Étienne nous rappelle, 15h46, on a une vraie vague aujourd'hui de publications. Alors, il est sur le pont, il prend les vagues et les embruns pour nous. Étienne, depuis la tour Euronext, vous êtes gâté aujourd'hui, Étienne. D'ailleurs, on est dans l'ambiance, là. On est sur le pont. Beaucoup d'embruns. Ah oui, 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 vous en prenez. Et nettoyez-vous et rincez-vous, Étienne. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et pour le coup, le marché est éclaboussé. On a un CAC 40 qui réagit moyennement. Il recule nettement, le CAC 40, au milieu de ses publications.
Bah, d'autant plus que vous avez beaucoup de grosses pondérations. Hein. Regardez notamment Nestlé, c'est plus de 200 milliards de valo. Ça perd 3% à Zurich avec des résultats sous les attentes. À Paris, vous avez les résultats aujourd'hui de Hermès. Bah, alors, ils sont très beaux, hein, ces résultats, mais ils avaient déjà été anticipés. Donc, le marché vend la nouvelle. Vous avez un titre qui recule de 4%, qui fait plonger l'ensemble du secteur du luxe, moins 3% pour LVMH à 775 €. Ça sera intéressant également de regarder les résultats de Airbus ce soir et de Total Energy demain. En attendant, bah, ça cale, hein, moins 1,5% pour le CAC 40, qui perd les 8000 points, 7 969 points du côté de Wall Street. Alors, le Nasdaq perd plus de 2%, il perd 1,8%, mais quand même, on est sur une baisse franche avec moins 4% pour Microsoft, moins 10% pour Meta, donc forcément tout ça, ça pèse sur la tendance américaine. Et puis, l'obligataire qui continue de grimper et qui reste toujours une alternative pour les gestionnaires aujourd'hui. 4,72 pour le 10 ans américain qui prend 7 points de base et qui se retrouve sur des niveaux de novembre dernier. Un dernier mot sur les volumes avec Romain Dobré qui vous le dit souvent, mais les volumes à la baisse restent toujours plus élevé que les volumes à la hausse, puisque là, la clôture, c'est dans moins de 2 heures et vous avez déjà 1,7 milliard d'euros négociés dans le CAC 40, alors que l'indice est sur les plus bas niveaux de la séance.
Effectivement, des volumes intéressants à suivre. 7964, on repasse sous les 8000 sur le CAC 40 après ces publications. Comment est-ce que vous les jugez, les publications du jour, Frédéric? Vous trouvez que le marché est sévère ou effectivement, il y a matière à peut-être reprendre plus de bénéfices?
Non, il y a un constat, finalement, les sanctions s'opèrent surtout sur les titres qui ont bien marché, bien valorisé. Ce qui crée un décalage finalement d'appréhension entre la société qui publie bien et une réaction négative. Donc finalement, c'est un marché de prise de bénéfices qu'on est en train de vivre. C'est assez classique, je l'avais dit la dernière fois, on est plutôt neutre moins, voire un baissier sur la période actuelle. Les publications aujourd'hui sont plutôt de matière à justifier des ventes. C'est le cas pour Hermès, par exemple, sur les résultats de manière factuelle, vous ne vendez pas le titre. Après, les guidances sont, certains messages, notamment sur la Chine, sont un peu plus neutres. Nestlé, c'est justifié, hein, il y a de l'eau dans le gaz de Perrier, je dirais. Il y a de l'eau dans le gaz chez Nestlé depuis pas mal de temps et ça fait une accumulation de mauvaises nouvelles. Donc la sanction est tout à fait justifiée. Et puis après, vous avez des réactions aux États-Unis qui sont assez stupéfiantes. Meta qui publie au-dessus, mais le marché a envie de regarder la mauvaise nouvelle. On a Tesla qui publie des mauvais chiffres, mais donne des indications sur quelque chose d'assez encore hypothétique, et le marché salue à plus 13. Donc on voit qu'il y a une nervosité sur cette publication. C'est vraiment un marché de fin de cycle, on va dire. En tout cas, on est en train d'absorber la hausse de 6 mois qu'on a eue sur les marchés, et donc plus propice à une baisse dans les semaines à venir. Je pense que la baisse n'est pas finie d'ailleurs, hein. On a potentiellement 4 ou 5% de baisse encore sur les indices. Je confirme ce que je vous ai dit il y a 15 jours. Je reste extrêmement prudent sur cette vague de publications.
Alors prudent, on le comprend. Est-ce que néanmoins certaines publications du jour vous semblent plus prometteuses que les autres? C'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs, Frédéric, sur nos réseaux sociaux, le fil X BFM Bourse, alors, le fil également LinkedIn. Oui. Cette question, laquelle des publications du jour trouvez-vous plus prometteuse que les autres? Est-ce que c'est celle d'Hermès, celle de Sanofi, celle de BNP ou encore celle de Fnac Darty? Vous êtes nombreux d'ailleurs à répondre aujourd'hui. Vous, Frédéric, laquelle des nombreuses publications du jour trouvez-vous plus prometteuse que les autres?
Alors, c'est quelque chose qu'on avait évoqué notamment dans le portefeuille BFM responsable, c'est Sanofi. Je vous avais dit, le marché a un côté court-termiste et n'avait pas supporté que Sanofi augmente finalement ses capex, privilégie la croissance future au détriment des revenus court-terme. Et on voit, avec les résultats notamment de sa licence du Pixent, qui tire les résultats vers le haut. Donc, on a vraiment aujourd'hui un acteur qui est largement sous-coté, qui mérite honnêtement une prime de 20 à 25% de plus On voit d'ailleurs dans le secteur, il y a AstraZeneca aussi qui monte de quasiment 6% au moment où on se parle. Sur le secteur de la santé, force est de constater, en tout cas pour les meilleurs, qu'il y a un vrai repricing qui est en train de s'opérer. Sanofi, aujourd'hui, c'est la très très bonne publication et finalement qui confirme ce qu'on pensait déjà avec plusieurs mois, que ce titre en a vraiment sous le pied pour une croissance future.
Et finalement, le marché finira par acheter cette nouvelle stratégie qui a été annoncée il y a quelques mois par Sanofi. Elle avait été sanctionnée à l'époque. Finalement, dans la durée, cette nouvelle stratégie finira en bourse par être saluée.
Exactement. Ouais. C'est le côté un peu court-termiste. Quand vous avez des marchés qui montent, vous prenez finalement la bonne nouvelle du court terme. Quand les marchés recherchent la croissance future dans une incertitude de trajectoire, il va aller chercher certaines certitudes. Et la certitude aujourd'hui, c'est que Sanofi a des très belles licences, a des croissances, repart en phase de croissance. Mmh. Et en plus, va gonfler ce pipeline de nouvelles molécules dans les années à venir. Donc oui, vous achetez la croissance future dans ce type de marché. Et je pense que toutes les entreprises qui ont une stratégie long terme, on commence à revaloriser. Celles sur le billet un peu plus court terme, elles vont être sanctionnées.
Il y a quand même un titre qui lui fait la girouette aujourd'hui, c'est STMicroelectronics qui, c'est vrai, alors, chiffre d'affaires très très décevant. Le titre a ouvert en net repli tout à l'heure et puis cet après-midi, finalement, il gagne 1,3%. Qui a raison, le STM qui baissait ce matin ou celui qui progresse cet après-midi?
Je répète, les valeurs qui ont fortement baissé par anticipation de mauvaises nouvelles, c'était le cas de STM. Oui, oui. On sait qu'il y a des marchés un peu contraints, on pose des questions sur l'exposition automobile par exemple, des choses comme ça, qui ont pesé sur le titre, STM, Infineon ou autre, dans les semi-conducteurs en Europe, ça a été assez pesant. Et là finalement, pour pas mal de sociétés, si c'est moins mauvais qu'attendu, on repaye. Alors que pour les entreprises qui ont été bien valorisées, qui sont sur les sommets, on va dire, finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un top de performance? Donc vous voyez des réactions qui sont totalement divergentes selon où on se situe dans la courbe de progression des titres.
Merci beaucoup Frédéric Rosier en direct avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Et surtout, votre message du jour aux investisseurs, c'est le cuivre. Regardez vraiment le potentiel du cuivre avec peut-être cette fusion-acquisition à venir entre BHP et Anglo American, ce qui donne renaissance à un nouveau leader mondial du cuivre, alors que le cuivre est de plus en plus demandé. Évidemment, on en a besoin pour l'électrification du monde, pour l'IA, le cloud, les véhicules électriques, les éoliennes, le solaire, tout ça demande beaucoup d'électricité. Il y a des études qui nous disent que d'ici 10 ans, l'IA et le cloud consommeront à elles seules 20 à 25% de l'électricité mondiale. Mais pour tout ça, il va falloir plus de cuivre aussi. Et l'idée, donc, c'est que peut-être qu'une dynamique de consolidation est amenée à s'enclencher davantage encore et à s'accélérer. C'est ce qu'on verra peut-être avec donc BHP Billiton et Anglo-American. Le CAC 40 est en repli en ce moment d'1,4%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et dans ce monde qui change, comment les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, allouent-ils l'argent des clients? Dans quoi conseillent-ils d'allouer effectivement le patrimoine de ceux qui en ont? Et de vous peut-être, qui nous suivez et nous regardez. Philippe Parguet est avec nous, directeur général de Norcia. Bonsoir, bonjour, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'on se voit le soir, généralement. Non, je vous imagine en soirée plutôt.
Oui, c'est vrai, voilà. D'ailleurs.
Philippe, vous publiez votre baromètre trimestriel Norcia, effectivement, sur le comportement des conseillers en gestion de patrimoine. Il y a eu un carton, là, depuis quelques trimestres, c'est le carton du fonds euro, avec la remontée des taux obligataires. Est-ce que ce carton, l'attrait du fonds euro, se confirme sur le dernier trimestre?
Eh ben, il se confirme sur le dernier trimestre, tout à fait. On sait qu'il se confirmera, a priori, sur le deuxième trimestre encore. Donc, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils feront sur le troisième trimestre. Mais aujourd'hui, oui, encore 70% des investissements dans les contrats d'assurance vie, dans les contrats de capitalisation qui sont sur le fonds euro. Bon, il y a trois raisons principalement à ça. Il y a beaucoup d'assureurs qui proposent encore des bonus sur les souscriptions et les versements qui sont faits sur le fonds euro. On arrive encore à trouver des 5,30 bruts sur 2024, garantie 2024 et 2025. Donc forcément, ce sont des éléments qui permettent aux investisseurs de se positionner. Il y a un deuxième point dont on avait parlé le trimestre dernier, qui étaient les trésoreries d'entreprise, les personnes morales. Alors celles qui peuvent souscrire des contrats de capitalisation, on les a vues partir l'année dernière, on les a vues partir pour du compte à terme, et n'anticiper aussi qu'elles puissent revenir, puisque les rentabilités qui sont offertes sur les comptes à terme, sur les renouvellements sont plus faibles, et eux, ils bénéficient à plein des bonus sur les fonds euros, donc ils reviennent. Et troisième élément quand même, c'est qu'il faut se le dire, aujourd'hui on est payé pour attendre, quand on est investisseur, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas connu pendant des années, et donc beaucoup en profitent. Et se font payer pour attendre.
Et vous vous dites que l'attrait du fonds euro, la collecte qui monte en puissance, ça va durer ou les choses sont amenées à changer quand même?
On sait que les bonus vont encore durer ce trimestre-ci et qu'après ça va s'éteindre. Donc globalement, on fait le pari que sur le second semestre, on arrive à rebasculer sur des investissements qui soient forcément différents. Alors peut-être que ça sera les obligations qui fonctionnent encore très bien. Peut-être que ça sera les produits structurés qui font un carton sur la partie unité de compte, 40%, mais il y a aussi beaucoup de taux garantis dedans. Donc où ça sera peut-être l'immobilier.
L'immobilier. Il faut qu'on en parle de l'immobilier. Les taux de crédit, les taux d'emprunt commencent à baisser sur l'immobilier. Alors on se dit qu'une éclaircie est peut-être à venir. Les courtiers y croient à fond. D'ailleurs, ils nous recontactent à nouveau, les courtiers, pour communiquer davantage. On le sent, il y a vraiment un espoir là sur ces premières baisses de taux qui commencent à arriver, un espoir de retour de la demande. Est-ce que dans les choix d'allocation des CGP, ça commence aussi à se manifester, un retour de l'attrait de l'immobilier, Philippe ?
Eh bien, pour l'instant, c'est Waterloo, morne-plaine. C'est quasiment, je crois, 2% des souscriptions qui se font sur la partie immobilière. C'est insignifiant. Et en fait, on le voit très clairement. Beaucoup de gérants de SCPI ou de gérants immobiliers pariaient sur la baisse des taux. Donc, du coup, globalement, étaient en position wait and see sur la partie des taux et notamment sur la dévalorisation de leur patrimoine, avec les valeurs d'expertise, etc. Et aujourd'hui, je pense que comme les taux sont de nouveau longs, enfin, restent encore élevés, peut-être qu'il y a encore quelques vagues de correction qui sont à attendre. Et les conseillers financiers sont pas dupes là-dessus. Ils attendent que la fin de la purge, si on peut, ou de la correction soit faite avant de se positionner. Parce que néanmoins, l'immobilier reste un magnifique produit de rendement. Et ça, par contre, ils en sont convaincus. Second semestre, on verra.
Effectivement. Les unités de compte, parce qu'on n'en a pas parlé là pour l'instant, on a parlé de l'immobilier, on a parlé des fonds euros qui sont historiquement les deux placements préférés des Français. C'est vrai, il y a un retour là du fonds euro après quelques trimestres difficiles. L'immobilier,
en revanche, c'est
nous. Voilà, exactement. Les unités de compte pour l'instant, quelles sont les tendances dans l'univers des unités de compte? Qui s'en sort le mieux? On a quand même une hausse des actions depuis le début de l'année absolument magnifique. Est-ce que ça impacte justement votre palmarès des unités de compte ou pas? Enfin voilà, comment est-ce que vous abordez ça? Qu'est-ce que vous observez surtout dans ce baromètre que vous venez de publier?
Très étonnamment, les investissements sur les classes actions sont limités, sont très faibles, moins de 10% depuis pas mal de trimestres. Donc les conseillers financiers sont passés à côté de cette hausse. Certainement que, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, et si j'entends les anticipations qui sont faites, ils vont se repositionner dessus. Dans les fonds, dans les unités de compte, donc tout ce qui est fonds commun de placement, le monétaire, pareil, on est payé pour attendre, continue sa chance. L'immobilier, l'obligataire daté.
Ah oui.
Et un fonds que nous avons vu revenir, qui s'appelle DNCA Alpha Bonds, merci. Qui est revenu dans notre palmarès après sa grosse collecte, et ça fait plaisir de les revoir.
Merci beaucoup. Voilà le baromètre trimestriel du comportement des CGP, les choix d'allocation, les conseils des CGP aussi à leurs clients. Norcia, régulièrement à nos côtés. Philippe Parguet, on est le directeur général. Bon retour, Philippe.
Merci, Guillaume.
Le CAC 40, moins 1,5%. Et cet article consacré à Carrefour sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Carrefour qui recule nettement aujourd'hui avec le reste du marché, même un peu plus que le marché et que le CAC 40, parce que les ventes de Carrefour baissent en France et en Europe. Détail donc dans cet article bfmbourse.com. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.